9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Amis lecteurs qui se livrent, lisez, dépouillez-vous de toute affection. Et le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal né infection. C'est l'apostrophe de Pantagruel, vous l'avez reconnu. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. François Rabelais procède par le rire, comme d'autres par l'émotion, la justesse, la finesse ou le scandale. Avec son livre drôlatique Pantagruel, il va aussi créer le roman d'observation. Mais aussi, disons-le, il va faire advenir la prose française moderne qu'il manie, il faut dire, avec une maîtrise absolument stupéfiante. N'oubliez pas que le français de son époque est encore un peu hésitant. On est avant la réforme de Malherbe et de Vaugelas. Rabelais, enfin, crée, et peut-être d'abord, crée des personnages devenus légendaires. Il se tient derrière ces personnages tout au long de ses livres. Il les tient, il leur fait voir le monde comme lui le voit. Il ne cesse de les voir eux-mêmes, de les regarder vivre cette vie dont il les a animés un peu à la manière d'un démiurge. Et il nous les montre à nous, de telle façon que nous ne puissions plus les oublier. Leurs gestes, leurs propos, leurs grimaces vont frapper les consciences et marquer les mémoires. Je vous cite ce passage sur le bébé géant, vous savez, cet enfant Gargantua. On est au chapitre 16 sur la naissance de Gargantua. Et pour l'apaiser, lui donnèrent à boire à tir à l'arigot et fut porté sur les fonds et la baptisé, comme est la coutume des bons chrétiens. Et lui furent ordonnées 10 et 7 913 vaches de potille et de bré et mont pour l'allaiter ordinairement, car de trouver nourrice suffisante n'était possible en tout le pays, considérer la grande quantité de lait requis pour y se lui alimenter, combien d'aucun docteur scotiste est affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 14 102 pipes 9 potées de lait pour chacune fois. Ce qui n'est vraisemblable et a été la proposition déclarée par Sorbonne « mamalement scandaleuse », des pitoyables oreilles offensives et sentant de loin hérésie. En cet état, passa jusqu'à 1 an et 10 mois, en quel temps, par le conseil des médecins, on commença à le porter et fut faite une belle charrette à bœufs par l'invention de Jean de Niot. Dedans Isselle, on le promenait par-ci, par-là, joyeusement, et le faisait bon voir, car il portait bonne trogne et avait presque 18 mentons, et ne criait que bien peu. Mais il se conchiait à toutes heures, car il était merveilleusement flegmatique des fesses, tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentale qui lui était advenue par trop humide purée septembrale. Et n'en humait goutte sans cause, car s'il advenait qu'il fût dépit, courroucé, fâché ou mari, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, lui apportant à boire, on le remettait en nature et soudain demeurait quoi et joyeux.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
François était né à Chinon. Il va passer son enfance en Touraine. Vous savez à quel point la Touraine va littéralement imprégner tout le reste. Il commence par se faire moine entre, sans doute, en 1510 ou en 1511 comme novice chez les Cordeliers de la Baumette. On n'est pas loin d'Angers. En 1521, il est moine au couvent des Cordeliers de Fontenelle, comte, où il apprend le grec. Curiosité mal vue dans un ordre qui n'est pas vraiment intellectuel, disons-le. On va d'ailleurs lui retirer ses livres de grec et il passera chez les bénédictins de Maizet, donc chez les bénédictins dans un monde plus cultivé. Il a la chance de connaître l'évêque Geoffroy d'Estissac qui va le protéger et qui l'emmène avec lui dans ses déplacements. Et c'est dans le sillage de cet évêque qu'il va faire diverses expériences et notamment celle du milieu médical. Rabelais quittera l'habit de moine pour suivre des cours. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il n'avait même pas demandé la permission ? Il s'installe dans la grande ville médicale à Montpellier en 1530. Il assiste d'ailleurs à une dissection qui est pratiquée par le maître Rondelet. Maître Rondelet, ce sera l'un des modèles du médecin Rondibilis, hein, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans le tiers-livre. Une anecdote relate l'arrivée de Rabelais dans cette faculté de médecine. Il est dans la grande salle de la faculté et on y soutient une thèse sur les vertus des herbes et plantes médicinales. Il prête l'oreille aux dissertations qui sont faites. Le doyen remarque son air majestueux, cette espèce d'aspect doctoral de Rabelais et... Voyant cet homme, c'est plus tout à fait un jeune homme qui est parfaitement sûr de lui, il l'invite à prendre place parmi les argumentateurs. Et Rabelais, modestement, s'excuse d'émettre son opinion au milieu de tant d'illustres docteurs, puis il aborde les questions controversées et il les traite avec une éloquence que je n'ai pas besoin de vous dire et une ingéniosité par ailleurs qui vont fasciner l'auditoire et d'un seul coup, on l'applaudit. Il est par proclamation considéré comme digne du doctorat. Rabelais parle. Il parle bien, beaucoup. Il écrit également. Il va publier son premier roman, Pantagruel, sous le pseudonyme d'Alcofibras Nazier, qui est l'anagramme de son nom, François Rabelais, hein, Alcofibras Nazier. Rabelais est connu pour ses travaux érudits et il n'a pas l'intention de se discréditer en publiant ce qui est quand même une facétie, parce que le caractère facétieux de l'ouvrage est évident. Et il l'est d'autant plus que, et ça il faut jamais perdre ça de vue lorsqu'on lit Rabelais, c'est qu'il s'amuse à parodier ce qui à l'époque est le genre le plus courant et qu'on trouve partout, c'est le roman de chevalerie. Quand vous êtes habitué à la prosodie particulière, aux images un peu empoulées des romans de chevalerie et que vous lisez Rabelais, mais vous riez trois fois plus parce qu'en vérité, c'est une moquerie tout ça. Et il va, à la manière d'un des grands romans de chevalerie, on pense à Amadis de Gaulle par exemple, il va raconter l'enfance et l'éducation, les exploits, la guerre contre les envahisseurs d'Ipsode. Il est d'une certaine façon, il est celui qui va détruire toute cette image héritée de siècles de courtoisie française. Il a d'ailleurs à côté du héros, il met un marginal, hein, qui s'appelle l'étudiant Panurge, qui est un peu farcesque. Tout ça est dans une extrême bonne humeur, bien entendu. Et voilà que l'évêque Jean du Bellay, qui va partir pour la péninsule italique, a besoin d'un médecin, d'un compagnon de voyage aussi, disons-le, et Rabelais va donc faire un séjour à Rome. La papimanie du Carlivre, n'est-ce pas ? Son deuxième roman, Gargantua, paraîtra en 1534 et racontera la vie cette fois du père de Pantagruel. Et ça reconduit le même schéma, hein, la formation du jeune prince, selon les préceptes humanistes dont vous avez d'ailleurs entendu tout à l'heure quelques extraits. Puis, les exploits, bien sûr, de Gargantua contre le roi Picrocole. Picrocole, c'est le voisin belliqueux, n'est-ce pas ? C'est l'origine des guerres picrocolines. Rabelais dénonce l'absurdité de la guerre. Et évidemment, quand il le fait, il ne peut pas s'abstraire de la situation dans l'Europe de l'époque, et notamment de cette rivalité absurde entre Charles Quint et François Ier. À cette folie meurtrière, Rabelais oppose la vie, ce cycle de la vie. Il oppose la bonne chair, il oppose la façon de humer le bon air né au vent, il oppose les beuveries du moine frère Jean, le moine rieur et gourmand frère Jean des entomeurs. Thank you. Un extrait du Carmina Burana de Karl Orff par le chœur et l'orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson.
Vous écoutez Radio Classique.
Bon, Rabelais, c'est vrai, se trouve à Rome avec Jean du Bellay. Il va d'ailleurs faire un deuxième voyage à Rome quand du Bellay, le cardinal, je parle, quand Jean du Bellay est devenu cardinal, et ça lui permet d'assister aux premières loges, aux intrigues de la cour pontificale, avec tous les démêlés diplomatiques. Faut pas oublier que la papauté de l'époque est bien embarrassée entre son soutien tout à fait ponctuel au roi de France et la puissance et l'alliance de l'empereur Charles, de Charles Quint. Bref, de retour à Lyon, en 1537, Rabelais est fait docteur en médecine et il va pouvoir pratiquer son art. D'ailleurs, on trouve constamment dans ses textes des évocations de la médecine, hein, des termes très savants, qu'il ridiculise un peu, faut bien le dire, des métaphores par la forme des organes. Bref, il réédite ses premiers romans et caviarde un certain nombre de passages désobligeants contre les docteurs de la Sorbonne, parce que c'est ça le problème. C'est qu'en écrivant et en ridiculisant les docteurs, Rabelais s'est fait beaucoup d'ennemis. Et d'ailleurs, Pantagruel et Gargantua vont rester sur la liste des livres à censurer. Il y a un troisième livre, le tiers livre, comme son nom l'indique, qui est publié en 1546 et qui immédiatement va être condamné pour hérésie. Mais oui, il y va d'une certaine façon, il y va trop fort, notre François. Il dénonce de façon beaucoup trop évidente le caractère inutile, cuistre, prétentieux du langage des savants de l'époque, des docteurs. Il dénonce l'inanité de leurs débats universitaires, tout le fatras des thèses antithèses où l'intelligence n'est pas guidée par l'instinct du vrai. De cette façon-là, et par cette dénonciation-là, on doit pouvoir dire de Rabelais qu'il est un des agents actifs de ce qu'on appellera beaucoup plus tard la Renaissance, c'est-à-dire le retour à une pensée plus directe, plus vraie et inspirée des anciens, contre cette scolastique médiévale qui peu à peu s'était emparée des consciences et avait détourné les meilleurs esprits sur la voie de ce qu'on doit pouvoir appeler le sophisme. D'ailleurs, il y a Panurge pour dénoncer le mauvais usage des connaissances et de la dialectique. Panurge qui formule la conclusion « Je ne vois goutte, je n'entends rien ». Et d'ailleurs, le mot « couillon » va être alors vraiment assaisonné à toutes les sauces, décliné à l'infini, il y a tous les couillons possibles, dans une espèce de litanie très drôle, au demeurant de Rabelais. Alors, voici par exemple, mais je vous donne un exemple, on pourrait en donner tellement d'autres. Dans Panurge, voilà comment Panurge, qui interroge un frère Fredon, n'a aucune réponse, ou en tout cas n'obtient que des monosyllabes. Vous allez voir, au-delà de la dénonciation évidemment sous-jacente, vous allez voir à quel point cette écriture-là est moderne. Franchement, elle peut faire songer, vraiment elle peut faire songer, par exemple à Eugène Ionesco, vous voyez. Alors, Panurge dit... Il parle des femmes, hein. Il est à la recherche. Adon tira par la manche un disseux, donc un des Fredons qui sont là. Maigre comme un diable est sauré, et lui demanda: Frater Fredon, Fredon, Fredon dit, où est la garce? Le Fredon lui répondit: Bah. En avez-vous beaucoup, Séant? Peu. Combien au vrai sont-elles? 20. Combien en voudriez-vous? 100. Où les tenez-vous donc cachés? Là. Je suppose qu'elles ne sont toutes d'un âge, mais quel corsage ont-elles? Droit. Le teint, quel? Lisse. Les cheveux, blonds. Les yeux, quel? Noirs. Et les tétins, ronds. Le minois, coin. Les sourcils, molles. Leurs attraits, meurent. Leurs regards, francs. Les pieds, quel? Plats. Les talons, courts. Le bas, quel beau, et les bras longs. Que porte-t-elle aux mains? Gants. Les anneaux du doigt, de quoi? D'or. Qu'employez à les vestir? Draps. De quel drap les vêtez-vous? Neuf. De quelle couleur est-il? Perse. Etc. nous sommes entrés, grâce à Rabelais, de plein pied dans la modernité. L'ensemble Early Music Concert of London, sous la direction de David Munro, interprétait ce Frottole de Josquin des Prés.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Rabelais n'est plus en odeur de sainteté. On présente souvent François Ier comme le père des lettres. Vous savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer souvent sur la question. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas vraiment protégé Rabelais et qu'il l'a même inquiété, en tout cas ne l'a pas défendu contre tous les docteurs qui lui voulaient du mal. Rabelais est obligé notamment, entre autres, d'aller se réfugier à Metz. Il a toujours, heureusement, la protection du cardinal Jean du Bellay, hein, qui le prend dans sa suite à Rome et partant pour l'Italie. Rabelais a tout de même le temps de remettre à son éditeur le manuscrit des 11 chapitres d'un nouveau livre, le quatrième, le quart livre, qui va être publié en 1546, qui est davantage sur le thème de la quête et du voyage. Le livre n'en sera pas moins mis à l'index. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Rabelais est une sorte de, comment pourrait-on dire, de grands ensembles dans lesquels viennent se mêler les connaissances du temps. Il a tout lu, Rabelais, les grands auteurs, mais aussi les compilateurs de l'Antiquité et de la Renaissance. Il s'éloigne de toute la tradition narrative médiévale. Avant, vous aviez les conteurs, les auteurs de fabliaux, etc., les fabulistes, et puis les auteurs de romans courtois. Mais les romans de Rabelais, qui anticipe d'une certaine manière un petit peu la quête de Montaigne dans ses essais, les romans de Rabelais mettent en avant un humanisme très particulier. Il est, lui, ce lettré qui pratique des études d'humanité, selon l'expression employée par les écrivains de l'Antiquité et de la Renaissance. Il s'agit de former le jugement humain à partir des textes anciens, et non seulement Rabelais a ridiculisé tout le fatras de raisonnement qui avait préexisté, comme je vous le disais, mais il a également mis en avant cette clarté, cette beauté, en quelque sorte, des auteurs anciens. Notamment, il entretient avec les auteurs grecs et latins une relation qui n'en est pas moins critique. Voici ce que nous dit Françoise Joukowski. Il prend son bien partout, il apparaît comme un penseur éclectique, aux stoïciens il emprunte l'idée d'une collaboration active avec la Providence, aux épicuriens les bienfaits du plaisir, à Platon le personnage de Socrate et la valeur du dialogue, à Aristote une confiance en la nature capable de reproduire les espèces et de transmettre fidèlement les formes de la vie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est à Paris que mourra Rabelais le 14 mars 1553, alors que son quart livre est toujours à l'index. Il est parfaitement conscient du caractère ambivalent de son art et de son œuvre. Et il y a notamment cet épisode absolument magnifique des paroles gelées. Vous savez, c'est une métaphore du livre. Le livre qui gèle les paroles issues elles-mêmes de l'expérience et qu'il faut ensuite être capable d'aller dégelé. Je vous lis cet extrait. Hein. Pantagruel et ses compagnons prennent les paroles qui sont les restes des bruits gelés d'une récente bataille. Ils les prennent et ils les jettent sur le pont du navire, sur le tillac, comme on disait à l'époque, pour essayer de les faire fondre. Alors, il nous jeta sur le tillac de pleines poignées de paroles gelées, et elles ressemblaient à des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, c'est-à-dire rouge, des mots de sinople, vert, des mots d'azur, des mots de sable, noir, des mots dorés. Après avoir été échauffés entre nos mains, ils fondaient comme neige, et nous les entendions réellement, mais nous ne les comprenions pas, car c'était un langage barbare. Un seul fit exception, assez gros, qui, frère Jean l'ayant échauffé entre ses mains, produisit un son semblable à celui que font les châtaignes jetées dans la braise sans être entamées lorsqu'elles éclatent, et nous fit tous tressaillir de peur. C'était, dit frère Jean, un coup de fauconneau en son temps. Panurge demanda à Pantagruel de lui en donner encore. Pantagruel lui répondit que donner sa parole était acte d'amoureux. « Vendez mon don, » disait Panurge. « Cet acte d'avocat, vendre parole, » répondit Pantagruel. « Je vous vendrai plutôt du silence. » Et plus chèrement, comme en vendit un jour Démosthène contre des deniers qui le rendaient à faune. Achetons donc un peu de silence.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jérémy Bigori d'avoir fait revivre pour nous un Rabelais qui du reste n'est jamais mort, n'est-ce pas ? Il est la vie, la vitalité, la pulsion faite homme et faite auteur. Voici quelqu'un de bien vivant également, c'est Christian Morin. Bonjour
vous
Christian.
Vous venez de dire quelque chose qui me contrarie quelque peu.
Oui.
Achetons le silence. On va faire du bruit avec une musique des plus agréables, avec Schubert, avec Mozart notamment. Merci pour cette rencontre avec le premier auteur de la semaine, parce que toute la semaine...
Oui, voilà, toute la semaine on va évoquer le grand auteur, demain Racine, après-demain Rousseau. Etc. Et Balzac, et même Marguerite Duras.
Bon, cela dit, cet après-midi, vous vous éloignez pas tellement de la littérature, puisque c'est un homme qui est né l'année de l'assassinat de Henri IV, c'est Paul Scarron,
ah, oui,
que
oui.
Vous allez évoquer. Avec
oui, qui était un littérateur d'ailleurs assez rabelaisien, d'une certaine façon.
Mais oui, parce qu'il y a le livre, enfin, je me suis penché sur le sujet avant que de vous en parler, il suffit de lire. Eh bien, je me suis aperçu qu'un de ses romans les plus célèbres était le roman comique.
Oui, bien sûr, oui, tout
donc,
à fait.
Ce dont on a besoin.
Il a emprunté une forme drôlatique à Rabelais directement, on peut dire ça, de Scarron, sans doute.
Bon, voilà, le prolongement, c'est 14 heures, bien sûr, avec la possibilité pour les uns et les autres de podcaster. Quand je dis les uns et les autres, je pense à quelqu'un de particulier dont j'ai le bonjour à vous transmettre.
Ah oui ?
Hier, je suis allé voir la dernière, il y a encore 3 spectacles de Michel Sardou, formidable, à l'Arena de Nanterre,
oui, oui.
Qui est une des plus grandes salles d'Europe.
Les grands adieux, là.
Oui, oui, mais enfin, écoutez, et la voix est... Mais quand on voit 25 000 personnes enthousiastes comme ça, c'était quelque chose de particulier. Alors après, on va saluer, bien sûr, l'artiste. Et puis, parmi les gens qui étaient là, il y a des paroliers qui ont travaillé avec lui. Quelqu'un qui me dit, ah, tu sais, tous les matins, je vous écoute avec Franck. Et je retrouve Franck à 14 heures ou en podcast. C'est Claude Lemel.
Ah,
le parolier Claude Lemel, membre éminent de la SACEM, bien
mais
sûr.
Oui, je le salue
donc,
bien chaleureusement.
Il nous écoute probablement. Je le salue aussi. Et on se retrouve, bien sûr, cet après-midi pour vous, Franck. Et demain matin à 9h avec grand bonheur.
Avec joie. Bonne journée.